problem that you can pray on. But if you can't take it, motherfucker, just skate on. Stop, look, listen and wake up. I'm from the land where the earth.
Suzanne.
Bonjour Zab.
Bienvenue sur J'en Rage, votre émission féministe lilloise. Aujourd'hui nous sommes le 18 août 2013 et pour cette 14e émission, une émission bien remplie dans laquelle nous aborderons la question du voile et de l'islamophobie. Alors attention, c'est pas une émission qui est destinée à débattre à trancher le pour ou le contre du voile islamique et si c'est bien ou pas bien l'islam. Moi personnellement, je suis pas croyante et puis on m'a toujours appris à avoir un regard critique sur les formes d'ingérence, on va dire, du religieux dans le politique. Là, c'est l'inverse en l'occurrence, c'est une ingérence du politique dans le religieux dont on parlera. Et donc garder à l'esprit que on n'est pas dans les mêmes espaces-temps partout dans le monde, dans tous les cas, et qu'on peut pas transférer des paradigmes français ou en tout cas occidentaux dans d'autres espaces-temps et qu'il faut toujours essayer d'ancrer dans le contexte dans lequel ils sont développés ces paradigmes. Donc ici, c'est vrai que je voulais dire avant tout qu'on n'allait pas trancher la question de savoir si c'était bien ou pas bien l'islam, les religions et le voile, quoi.
C'est d'ailleurs peut-être précisément ce contre quoi on pourrait l'émission est pensée. Enfin, une des raisons pour lesquelles elle est pensée, c'est-à-dire que il y a pas mal de confusion. Il y a eu énormément de confusion politico-médiatique concernant l'islam et qui ont contribué à construire l'idée qu'il y a un bon et un mauvais islam, qu'il y a un islam en faveur duquel on pourrait être et un islam en défaveur duquel on devrait être et que tout positionnement politique revient, tout positionnement politique en solidarité avec les musulmans et notamment en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la lutte féministe, les femmes musulmanes portant le voile, est direct catégorisé de pro-islam, ce qui n'est évidemment pas le débat. Ça déplace complètement le débat. Le débat n'est pas de trancher entre un bon islam et un mauvais islam.
Voilà, je pense que donc voilà, on a assez expliqué le but de cette émission, donc comprendre un peu les soubassements idéologiques, je pense, derrière cet acharnement politique et à la fois médiatique contre les musulmans français ou français musulmans d'ailleurs, je sais pas comment dire exactement, et l'islam de manière générale, etc. Donc juste avant d'entrer dans le débat et d'approfondir un peu la question. On va vous passer un petit montage qu'on vous a concocté. À tout de suite.
L'Assemblée a voté massivement la loi contre les signes religieux à l'école. 494 voix pour, 36 voix contre.
Les femmes françaises, comme il y a 40 ans les femmes américaines, elles défendent la liberté. Ça va au-delà de l'égalité et la liberté, c'est la libération des hommes et des femmes. Et le voile, ça veut dire exactement le contraire, c'est l'enfermement des femmes à l'intérieur d'un modèle stéréotypé, et ça on n'en veut plus.
C'est quelque chose qui contrevient à l'idéal de la République laïque.
Du corps, et encore une fois, je ne vois pas au nom de quoi les traditions de l'Est devraient s'imposer à l'Ouest. Et bon, je vais dire quelque chose de banal, mais c'est quelque chose qui vient à l'esprit de tout le monde. C'est-à-dire que si moi, je vais en Arabie Saoudite, et bien sûr que je serai obligée de mettre un voile. Et du coup, entre vous et moi, je n'irai jamais dans un pays où on me forcerait à mettre le voile. Mais si j'y vais, je me conforme aux us et coutumes de l'islam radical, des wahhabites, voilà, je le ferai. C'est la moindre des politesses.
On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité, c'est vrai, le voile dans son outil politique de conquête des esprits. Et la kippa, qui est une référence à Dieu.
Un certain nombre de pratiques, de prosélytisme et de militantisme islamique qui se cachent derrière le voile.
C'est un argument pseudo-féministe qui a été proposé par le pouvoir en place et dans un panneau dans lequel malheureusement beaucoup de féministes sont tombées aussi. Parce qu'elles ne sont pas seulement tombées dans ce panneau-là qui pousse à la répression de certaines femmes, mais elles sont tombées dans l'autre panneau qui est de favoriser le symbole au détriment de la réalité.
Pas un signe religion, c'est un symbole d'oppression fait aux femmes.
Pour moi, peut-être que porter le voile, justement, c'est m'émanciper, c'est m'affirmer en tant que femme. Donc c'est pas, il n'y a pas un féminisme, le féminisme unique. C'est pas universel.
Dire que la racine du patriarcat et de l'oppression des femmes réside uniquement dans l'islam, c'est trop réducteur et ça ciblerait forcément un sexisme de banlieue et de quartier, alors que le sexisme concerne toute cette société et dans les sphères publiques que privées.
Ce sont les plus grands de nos phallocrates qui aujourd'hui se targuent d'être des féministes et qui, au nom de la dignité des femmes, veulent dévoiler les femmes, ou en tout cas faire des lois donc contre la burqa. Mais c'est quand même,
non.
Aujourd'hui les féministes françaises se font avoir comme c'est pas possible. Je veux dire, elles sont les premières à savoir, parce que c'est des luttes de 30 ans, elles savent parfaitement bien qu'au niveau des gouvernants, ils en ont rien à foutre, rien à faire de la condition des femmes.
Alors voilà, petit montage terminé, j'espère que ça vous a plu. Donc il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans ce montage, mais avant de commencer, il y a une fille qui intervient à un moment donné pour dire que pour elle le voile c'est une manière de s'émanciper. C'est une intervention qui provient d'un documentaire qu'on vous invite
vivement à
regarder, voilà, qui s'appelle Islam, un racisme à peine voilé, que vous pouvez retrouver sur YouTube ou Dailymotion. Je sais plus exactement de qui est.
Alors, il a été réalisé par la personne, je me rappelle plus son nom, mais je sais qu'il est le fondateur et rédacteur du site LMSI, les mots sont importants, et qui lutte beaucoup qui est un site antiraciste concrètement, donc. Voilà.
Donc pour commencer, on va revenir un petit peu sur ce montage. Il y a plusieurs personnes qui interviennent. Alors à la fois des féministes, ou en tout cas des personnes étiquetées comme féministes, comme Siem Abichi, qui est ex-présidente de Ni Pute Ni Soumise, donc qui a été présidente de 2007 à 2011. Et qui a déposé sa démission après une grève à l'intérieur même de l'association Ni Pute Ni Soumise, et qui fait également partie de la HALD, Haute Autorité de Lutte Contre la Discrimination et pour l'Égalité, contre le voile. En gros, elle se positionne contre le voile, elle considère que le voile est un symbole de domination masculine sur les femmes. Fadela Amara, elle, intervenait pas dedans, mais je voulais revenir sur elle aussi. Elle est aussi secrétaire membre de la HALD, et elle est à l'origine du mouvement Ni Pute Ni Soumise, qui est vraiment le mouvement phare qui s'est opposé, je pense, le mouvement féministe le plus connu en France, le plus médiatisé en tout cas, qui s'est opposé au port du voile dans les écoles, ouais, dans les écoles dès 2004.
On a beaucoup entendu en 2004, qui a fait toute une campagne. Voilà. Très républicaine avec si on s'en souvient, elles ont publié un livre et elles ont notamment fait une campagne où l'on voyait la France Black Bomber quoi concrètement, ouais. Avec
Marianne,
ouais, avec la nouvelle Marianne métisse, enfin avec des origines multiples, etc., mais d'une certaine manière amenait une forme d'angélisme et surtout à un civilisme, il fallait être civil et qui rejette du coup les mauvais éléments de la République. C'était un peu la politique aussi des plus insoumises, quoi. Faire bonne figure en fait, finalement, dans le cadre du débat pour l'interdiction du voile dans les écoles publiques et donc toute cette parano autour de l'islamisation.
Voire, c'est pour moi quasiment, enfin, on peut carrément interpréter ça comme. Enfin, un mouvement contraire à tout ce qui est désobéissance civile, etc. Là, c'est vraiment ok, on est blanc, on est noir, on est ce que vous voulez, mais on est des Mariennes, on doit embrasser les valeurs de la République.
Et on est des
française.
Bons petits intégrés, voilà. On est des bons assimilés, etc.
Bref, sans parler seulement du mouvement donc ni pute ni soumise, il y a d'autres intervenants. Il y a Anne Sugier qui est que je connaissais pas avant, mais qui est présidente de la Ligue du droit international des femmes. Et qui est ancienne militante engagée du MLF. Donc elle, l'intervention qu'on a insérée dans le montage, c'est un entretien qu'elle a donné lors de la dernière journée de la femme le 8 mars dernier. Donc lors de quelle elles ont accroché une grosse bannière. Près de la mini-statue de la liberté à Paris, sur lequel elle montrait une statue de la République voilée et sur lequel était écrit « Le voile islamique insulte la liberté ». Donc là, pareil, c'était... elle montrait son engagement contre le voile de nouveau. On a entendu aussi Elisabeth Badinter, donc philosophe féministe française assez médiatisée, assez connue, connue d'habitude pour ses interventions politiques... à faveur des droits de la femme.
Qui a été... Ouais, je te laisse finir, excuse-moi. Ouais.
Notamment, elle s'est engagée plusieurs fois à faveur de la prostitution en disant que c'était un droit des femmes à disposer de leur corps. Et qu'il a, dès 1989, donc avec la première à faire du voile, a été une des personnes qui a écrit un article qui s'intitulait « Prof, ne capitulons pas ». Qui est paru dans le Nouvel Obs en 1989, donc, et qui appelait les professeurs à ne pas accepter les étudiantes, enfin les élèves voilées dans leur classe. Ensuite, vas-y, Suzanne, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, juste pour parler très très brièvement d'un livre que je n'ai pas lu, en fait, mais dont j'ai pas mal entendu parler parce qu'il a fait vraiment la polémique de, Elisabeth Badinter, qui s'appelle « Fausse route », et dans lequel elle revient sur un féminisme dit « différentialiste » qu'elle dénonce pour, en fait, finalement, mettre au devant de la scène un féminisme universaliste, mais un féminisme universaliste républicain, c'est-à-dire une espèce de neutralité, d'une abstraction qui justement contre laquelle ont toujours lutté les féministes, c'est-à-dire que l'universalisme, on sait bien qu'il cache en général un point de vue masculin, blanc, hétérosexuel, etc., toutes ces choses-là. Et donc je trouve que dans son, si je peux me permettre, où est-ce qu'après vas-y, on commente vas-y. Les entretiens, ou est-ce qu'on commente d'abord ?
Non, vas-y, tout de suite.
Son propos est très très révélateur, je trouve, d'une politique, du discours assimilationniste. Discours assimilationniste.
Enfin, pour revenir justement sur ça, pour que vous sachiez, c'est elle qui dit, si j'allais en Arabie Saoudite, je me voilerais parce que, en gros, je respecterais les valeurs et les lois du pays dans lequel je vais. Les lois en France, c'est l'interdiction du voile, donc c'est à eux de respecter ces lois-là. En gros, c'est elle qui disait ça dans le montage.
C'est ça. Et donc, puisqu'en fait, elle se projette dans un, dans une culture haute. Donc là, son discours révèle déjà qu'en parlant du voile, alors qu'il s'agit en fait finalement la plupart du temps de Français musulmans, on est en train de parler de politique française, elle le renvoie à l'autre, très 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 loin, aux barbares qui vivent dans les pays arabes, en disant si je rentrais dans ces pays, je devrais me voiler. Et donc, présupposer implicitement il faudrait se soumettre à donc le dévoilement de ces femmes qui, et donc elle érige, il y a deux choses, elle érige le nudité, enfin du moins le fait de ne pas avoir de voile comme une valeur culturelle française, comme une identité française, puisque finalement on arrive dans le territoire français, ça correspond le français, la française, la bonne française est une française non voilée, et également c'est une injonction à l'assimilation, à l'intégration concrètement, puisqu'elle dit je le ferai dans leur pays, donc déjà elle est, voilà, donc elles ne sont pas françaises, donc dans mon pays, dans notre pays qui est donc un pays blanc, sous-entendu blanc et non musulman, elles ont à se dévoiler. Et je trouve que c'est vraiment c'est l'extrait que je préfère, enfin que je trouve le plus explicite, enfin, il y a pas mal de choses argumentaires qui se mêlent.
Qui est généralement en plus un argumentaire qu'on retrouve facilement et qui construit finalement cet autre qui est le musulman qui, est né en France mais qui n'est pas français parce qu'il n'a pas les valeurs françaises et donc finalement renforce, comme si en gros, finalement maghrébin ou arabe, on va dire, avait cette spécificité d'une part d'être musulman à chaque fois, mais d'autre part, le fait qu'il soit musulman soit en gros un principe qui soit incompatible avec les valeurs françaises dans l'absolu, quoi. Ouais. Je sais pas si tu m'as compris.
Ouais. Complètement, ouais.
Ah, bref, voilà. Mm. Après, donc on va revenir quand même un peu sur les intervenants dans le montage. On a pu entendre aussi Arnaud Montebourg qui parlait de laïcité et disait qu'en gros, les signes ostentatoires et le fait de porter le voile, c'était incompatible avec la laïcité qui est la grande valeur de la société française. Et moi, sans revenir directement sur les interventions, à moins qu'il y ait une intervention sur laquelle tu voudrais revenir en particulier, Suzanne, ou sinon on reviendra dessus un peu plus tard.
Juste après, on pourra revenir si tu termines les présentations. Ouais.
Voilà. Moi, ce qui m'a frappé surtout dans les diverses interventions de ce montage, c'est les interventions qui se positionnaient contre le port du voile et qui venaient de tous bords et qui m'a fait me poser la question. Enfin, qui m'a fait me dire dès le départ, quoi. Enfin, il y a un problème. Il y a un problème dès le départ, puisque, enfin, il y a quelque chose qui m'a titillé et je me suis dit, il y a un blème. C'est que finalement, les personnages politiques de tous bords, que ce soit des personnes politiques comme, bon, là, c'est pas dans le montage, hein, mais tout le gouvernement Sarkozy. Qui sont donc qui viennent d'une branche politique qui est conservatrice, qu'on a pas mal montré la xénophobie de l'ancien gouvernement, donc de celui de Sarkozy de manière générale, mais donc qui est dans la défense des valeurs traditionnelles judéo-chrétiennes, etc., donc patriarcales, et par ailleurs qui a montré son homophobie à diverses reprises. Et comment, avec des Christine Boutin, des Christian Vanesse et autres personnages politiques de ce genre-là qui sont affiliés à l'UMP, ou par exemple David Douillet qui s'est... voilà, bref, on sait ce qu'il a dit. Et donc comment finalement des personnages politiques de droite ont réussi à s'allier avec d'autres personnages qui venaient qui sont à l'opposé d'un point de vue des valeurs qu'ils défendent, comme Arnaud Montebourg qui est au PS, donc. Et donc là, dans le montage, il représentait en gros la gauche avec aussi les associations comme Ni Pute Ni Soumise, qui sont affiliées de gauche plutôt.
Et des associations dites féministes aussi.
Et voilà, et des associations donc féministes. Comment finalement ces trois mouvements politiques, ou en tout cas ces trois couleurs, on va dire, même si c'est pas...
Trois couleurs, ça, ouais. Enfin,
le féminisme peut être de droite et de gauche, etc. Et puis, il faut nuancer à chaque fois, bien sûr, même si ça me paraît très difficile, un féminisme de droite, enfin, de notre droite française, en tout cas. Bref, c'est pas le débat. Mais en gros, comment on a réussi, il y a réussi à avoir une coalition d'un coup de tous ces mouvements qui sont tout le temps en train de se battre et de s'affronter sur la scène politique. Et d'un coup, on réussit à se mettre d'accord et à dire finalement, il y a un problème avec le voile. C'est ça qui m'a titillé dès le départ. Et je me suis dit, il y a un problème, quoi.
À ce titre, il y a quelques figures intéressantes qui n'ont pas été mentionnées. Une qui a été que l'on a entendue dans le montage, et je pense à deux autres figures que l'on n'a pas entendues, et qui, donc, il y a Ouria Boutelja, qui s'exprimait, qui est donc la porte-parole des indigènes de la République, et que l'on entend un peu, vous tapez son nom sur YouTube, vous pourrez l'écouter, et qui en gros, les indigènes de la République, et donc, bien sûr, un groupe, un collectif antiraciste, plus que ça même, qui défend l'idée qui défend les termes de noir, blanc et arabe comme des identités politiques. Ouria Boutelja s'exprime dans le fichier audio qu'on a écouté, en soulignant ce paradoxe que tu viens de soulever. À savoir que pourquoi Sarkozy aujourd'hui, mais ça peut être aujourd'hui Hollande avec on le verra plus tard, sa position à l'égard de ça, qui sont pas peu connus pour leur lutte féministe et peu connus pour leur homophilie.
C'est le cas de le dire.
Tout à coup, se révèlent, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, c'était carrément un euphémisme, se révèlent tout à coup être de grands protecteurs des femmes...
Des chevaliers servants du féminisme.
Des chevaliers servants des femmes musulmanes, que d'ailleurs ils érigent en victimes et également en figure repoussoire. Et donc, c'est ce qu'elle soulignait, et à ce titre, on peut relever pas mal de figures dont on pourrait peut-être plus tard en parler plus longuement, à savoir Caroline Fourest, qu'on a beaucoup entendue dans les médias, qui, parce que, notamment, elle a soutenu les Femen, hein, dont elle s'est d'ailleurs récemment désolidarisée. Cependant, on peut quand même souligner le fait que Caroline Fourest a, son cheval de bataille, ce sont les extrémismes religieux. Et donc, elle veut bien faire la différence. Donc, elle combat tous les extrémismes religieux, et notamment l'islam. Et elle a toujours tenu à bien appuyer ça, c'est-à-dire finalement pour pas être taxée d'islamophobe. Le problème, c'est que ses positions sont souvent un peu problématiques, et que ses interprétations sont la rage qu'elle met dans sa lutte contre l'islam dit intégriste est souvent un peu suspect quant à son engagement, son engagement à l'égard des personnes musulmanes, on va dire, voilà. Donc il y a Caroline Fourest qui a soutenu les Femen. Et justement, on peut également parler des Femen, qui, quant à elles, ont une politique que certains qualifient de néocoloniale, puisqu'il est question quand même pour elles, déjà, leur politique de nudité, que je ne critique pas du tout en tant que telle, mais qui se fait parfois à l'encontre justement du port du voile intégral, du port du voile, etc., qu'elle voit comme un symbole d'oppression. Et on repense au tweet de Ina Shevchenko, parlera peut-être plus tard. C'est tout ce que j'avais à rajouter. Peut-être une dernière chose, à savoir qu'on a entendu deux anciennes militantes du MLF, Christine Delphi. Et
également, oui.
Comment ?
Également, oui.
Ouais, Christine Delphi, qui, elle, se positionne en faveur des... en solidarité avec les femmes voilées. Je ne me rappelle plus, du coup, l'autre personne du MLF, mais qui a participé au MLF, mais qui, du coup, pour le coup, a adopté une trajectoire complètement différente.
Ah, c'était Annie Sugier, donc.
Sugier, voilà. Et c'est là qu'on peut voir à quel point il y a vraiment des fractures...
Au sein du féminisme. Voilà. Enfin, des féminismes, pardon.
Des féminismes, par rapport à un féminisme, entre guillemets, même s'il n'y en a jamais vraiment un, mais un féminisme historique féminisme MLF, quoi, des années 70. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Excuse-moi, Zab,
Non, il n'y a pas de souci. Non, donc voilà, je pense qu'on a terminé un peu sur les personnes qui sont intervenues dans ce montage. c'est un montage qui donc qui était enfin qui avait pour but de montrer finalement cette collision qui a eu d'un coup entre personnes de tous bords au nom de la défense des femmes voilées et qui appelait au dévoilement général de la France, donc en érigeant comme paradigme universel en gros voilement du corps ou cacher le corps, en gros, ce serait se soumettre à une volonté autre que la nôtre propre, quoi, celle des femmes, en gros. Et en disant que, finalement, c'est en disant le port du voile est une forme de soumission et de domination, est un symbole de domination, alors que ne pas le porter, donc se découvrir, ce serait un signe de liberté, quoi. Ce serait un signe d'émancipation de la femme, quoi. Ce qui est déjà un peu suspect. Enfin bref, on va vous mettre une petite chanson et puis on reviendra tout de suite pour parler là justement de... D'actualité, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc tout de suite, Made in Combat de Femmes.
De 170 jours dans le repos de la matrice, une destinée insufflée dans l'éternelle institutrice. Voyager vers la vie dans tes entrailles, insouciant du nouveau monde quand elle te pose sur les rails. Cuillère d'argent et nourriture dans la bouche, la peau du dos entre les gros lionceaux n'est plus farouche. Préserve du vinaigre et le remplace par le miel, avant d'être social ma couverture est maternelle. Adolescent gâté mais désobéissant, qui collectionne les mensonges, comportements avilissants. Je regrette tellement, j'espère te rembourser un jour, quitte à sacrifier ma vie, faire mes excuses au grand jour. Mère couveuse, mère poule, mère solidaire, mère à l'écoute, mère porteuse et mère autoritaire. Aucun adjectif n'est assez baraqué, aussi vrai que le paradis, maman se trouve à tes pieds. Lorsque les mères enfantent les filles et les filles deviennent femmes, deviennent des sœurs, des demoiselles puis des dames. Au pas trop féminin et ce depuis les premiers âges, et quel que soit leur nom, elles sont synonymes de courage. Le visage qui réconforte nos carcasses est loin du tracas, soulage des sarcasmes. Qui au moindre problème se jette dans l'arène. Combat de lionne, combat de princesse et de reine. Il est plus facile qu'un homme de faire perdre l'honneur d'une femme. Un seul geste de travers et le monde entier la condamne. Petite sœur qui à l'école montre l'exemple, mais porte sur son dos les préjugés de son ensemble. Un truc qui daterait depuis la première femme, pour avoir encouragé à l'interdit l'homme et son âme. N'écoute pas cette erreur, petite sœur, tu vaux bien plus que beaucoup d'hommes à la force de ton cœur. Évite les mauvais délires, les mauvais gens, évite la mauvaise compagnie qui procure le mauvais sang. Emprunte le bon chemin, celui qui mène au bien, c'est là mes seuls conseils pour te sortir du chagrin. L'encouragement, le minimum que l'on puisse faire, envers ton voile et ton droit de vote, il va falloir s'y faire. Et pour preuve que le malaise est sur ton nom, seulement 16 mesures déjà à court d'inspiration. Lorsque les mères enfantent les filles et les filles deviennent femmes, deviennent des sœurs, des demoiselles puis des dames. Au pas trop féminin et ce depuis les premiers âges, et quel que soit leur nom, elles sont synonymes de courage. Le visage qui réconforte nos carcasses est loin du tracas, soulage des sarcasmes. Qui au moindre problème se jette dans l'arène. Combat de lionne, combat de princesse et de reine. Un seul vêtement épouse la forme de nos corps. Les bâtiments pour seul décor donnent des orphelins du cœur. La moitié pleine qui remplit la moitié vide, qui nous secourt quand on a la tête dans le vide. On dit souvent qu'on a la femme que l'on mérite. Moi je crois bien l'avoir compris avant le jour de la mairie. Marier sa culture à une autre avant le gong. Les minarets de Médine dans le fleuve du Mekong. La tour Eiffel dans le lac rose vers Dakar. Les dunes du Sahara sur la place du Mont Gaillard. Le mélange est explosif lorsqu'il donne le fruit de nos entrailles, une petite fille, petit bonhomme. Préserve-moi, je préserverai ton nom, sanctuaire de la vie et de la procréation. Et va savoir pourquoi tes sourires m'inspirent la première lettre de mon nom comme le mot que je voudrais dire. Lorsque les mères enfantent les filles et les filles deviennent femmes, deviennent des sœurs, des demoiselles puis des dames. Au pas trop féminin et ce depuis les premiers âges, et quel que soit leur nom, elles sont synonymes de courage. Le visage qui réconforte nos carcasses est loin du tracas, soulage des sarcasmes. Qui au moindre problème se jette dans l'arène. Combat de lionne, combat de princesse et de reine. We'll be right back.
Oui, donc voilà, c'était donc Médine, combat de femmes. Donc très vite, un petit retour sur, sur l'actualité pour juste avoir des repères, des petits repères et de pourquoi... Enfin, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait une émission là en ce moment là-dessus, c'est que c'est vraiment...
C'est d'actualité.
En ce moment, c'est à fleur de peau.
Bah, ça revient d'actualité.
Ça redevient d'actualité parce que bon, ça a maintenant quand même des années. On se souvient de la polémique de 2004 qui a été lancée autour de l'interdiction du voile à l'école, puis de l'interdiction de la burqa dans les lieux publics. Et du coup, là, la politique islamophobe revient en force en 2013, puisqu'il y a donc ces derniers mois une proposition de loi qui a été lancée pour l'interdiction du voile dans les établissements privés de soins et de la petite enfance. François Hollande s'était prononcé en faveur de cette proposition de loi. Mais il a quand même mis l'Observatoire de la laïcité pour une enquête, enquêter sur, en gros, est-ce que c'est bien de le faire ou pas, en gros, c'est un peu ça l'idée. Et donc, les résultats de l'enquête ont donné, ont jugé cette loi liberticide et anticonstitutionnelle pour la communauté musulmane. Donc, quand même,
qui
l'Observatoire de la laïcité. Notamment quand même pour deux choses. D'abord parce que il ne s'agit pas, la laïcité, il ne s'agit pas de défendre la laïcité dans les lieux privés. Ça deviendrait d'une absurdité quand même incroyable. Déjà, le fait de la défendre dans les lieux publics est très suspect. Mais en gros, le service public n'a pas du tout... à se charger d'une mission à l'égard des lieux privés. Et... il y a eu également une polémique, la fin d'un procès en mars 2013 qui avait commencé en 2008 et qui s'est conclu en la faveur de Fatima Afif qui avait été licenciée d'une crèche. Donc c'est pour ça aussi que la polémique a été relancée pour port du voile islamique. Et donc elle a gagné heureusement en défaveur de Babylou qui était donc le nom de la crèche. Deuxième chose, le Haut Conseil à l'intégration a émis l'adoption d'une loi interdisant dans les salles de cours, les lieux et les situations d'enseignement et de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur, les signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Donc là, je cite en fait les propos au Conseil à l'intégration. Alors, par port du signe religieux, il est évidemment implicitement question du voile, puisque il n'a jamais été mentionné une seule fois le terme de kippa ou de croix. Ça vise, bien entendu, l'islam, on n'est pas dupe. Et évidemment, la laïcité, ici, reste un prétexte à lancer une loi raciste. Troisième chose, ces derniers mois, en mai 2013 et en juin 2013, je ne sais pas si vous en avez entendu parler parce que les médias ont été saturés par la mort de Clément Méric, en fait, qui avait été tué par un fasciste, militant antifasciste tué par un fasciste, qui a mobilisé beaucoup la scène militante. Mais quasiment au même moment, il y a eu deux femmes musulmanes portant le voile qui ont été agressées à 3 semaines d'intervalle et à Argenteuil. L'une d'entre elles était enceinte et donc voilà, si on lit leurs témoignages, les personnes qui les ont agressées leur ont arraché le voile, coupé les cheveux et donné des coups dans le ventre. Ces événements ont été moins relayés que la mort de Clément Méric, mais on contribue à beaucoup brasser d'énergie quand même, à soulever des questions et soulever des réactions politiques heureusement scandalisées, etc. Donc il y a quand même eu des rassemblements qui ont été organisés à Argenteuil précisément et qui se sont donc je pense que je vais terminer là-dessus. Oui, dernière chose, si il y a une pour information, on a mis en ligne sur notre site, enfin sur notre page Facebook, on le fera également sur Twitter peut-être, qui concerne une pétition qui a été lancée en juin 2013 par Sonia Diane Herz-Brun et Louisa Bella Hamissi, membres du CFPE, Collectif Féministe pour l'Égalité, et Isma Anne Schuder, présidente de ce même collectif. Et la pétition s'appelle « Nous sommes toutes des femmes voilées ». Cette pétition, très brièvement, que dénonce-t-elle ? Évidemment, elle dénonce les dernières polémiques lancées à l'encontre des femmes musulmanes portant le voile. Et je cite notamment texto le texte « Une telle loi, il faut le rappeler, serait contraire à l'esprit comme à la lettre de la loi de 1909 que les prétendus défenseurs de la laïcité ne cessent de bafouer. Elle constituerait une restriction des libertés religieuses que cette loi garantit. Une telle loi qui, sous prétexte de protéger les enfants dont on ne sait quelle contamination, veut soumettre des femmes à la domination des tenants de la purification nationale et les réduire au chômage ou à l'invisibilité. Et donc c'est une loi raciste. Elle ne peut avoir pour effet que d'empêcher les femmes musulmanes de s'affirmer dans le monde du travail, ainsi que dans l'espace public et politique, comme sujet et comme citoyenne, et d'exprimer librement leurs convictions comme n'importe quelle citoyenne dans un pays démocratique. Elle aurait pour conséquence un nouvel enfermement des femmes musulmanes que l'on confinerait dans leur cuisine et dans leur ghetto, et leur exclusion de l'espace public et du monde du travail, alors même qu'elles aspirent à s'investir pleinement dans la vie collective. Voilà, je termine là-dessus. C'était intéressant notamment pour souligner ce paradoxe du fait qu'une telle politique exclut davantage alors qu'elle est censée, entre guillemets, je mets des gros guillemets, intégrer.
Voilà, c'est ça. Et puis finalement, ça pose aussi la question du pourquoi du comment, en gros, pourquoi finalement c'est un tel acharnement contre la communauté, si on peut parler de communauté, mais en tout cas les musulmans de France, de manière générale, et plus spécifiquement contre le port du voile finalement. Je pense qu'il y a deux arguments importants qui émanent de l'opposition, quoi. Le premier, c'est celui de la laïcité, qui pose problème dès le départ, puisque la laïcité dans la loi 1905 qui a été écrite par Jean Jaurès, si je me souviens bien, en gros, n'interdit pas le fait d'avoir une religion ou de pouvoir s'exprimer librement. Seulement, il y est seulement question de liberté de conscience. Donc là, dans le cas du voile, ce qui a souvent été reproché, c'est qu'on considère que c'est un signe qui est, ça appelle en gros que c'est un signe de prosélytisme, c'est-à-dire que en portant le voile, toutes les femmes voilées diraient nous devons toutes devenir des femmes voilées et nous devons toutes devenir musulmanes. C'est ça qui poserait problème, ce qui n'est, qui est difficilement soutenable de toute façon. Donc l'argument de la laïcité à défendre à tout prix dans les lieux privés ou publics pose problème dès le départ. Que ce soit dans les classes ou ailleurs au travail, tout le monde a le droit d'exprimer ses convictions. Seuls les profs et les programmes ont cette retenue à avoir et à pas, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, de dire moi je pense que ceci est mieux que cela, quoi. Mais les élèves en tout cas ont aucun devoir à ce niveau-là, peuvent s'exprimer autant qu'ils veulent, donc ça pose problème dès le départ. Je pense que d'ailleurs on pourrait dire qu'on devrait accepter le voile dans les espaces publics et privés au nom de la laïcité. Ça devrait être le contraire, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Suzanne.
Je suis tout à fait d'accord, c'est un dévoiement complet du terme. La laïcité, ça devient une injonction à la laïcité, et j'ai presque maintenant une espèce d'allergie à ce terme à cause de toute cette polémique. Puisque par laïcité, derrière, il y a politique assimilationniste, c'est-à-dire que l'on a en idée qu'on doit être laïque, c'est-à-dire que la France est laïque, mais elle a une identité laïque, c'est-à-dire en fait neutre religieusement. Sauf que...
Ce
qui n'est pas du tout le cas, elle n'est pas du tout neutre. Il suffit de regarder que l'islam est la deuxième religion française, je ne sais pas, en fait, je m'en fous un peu des statistiques, là n'est pas le là n'est pas le débat en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que évidemment que la France, que les Français et Françaises ne sont pas neutres, que la religion est une des pratiques partagées par beaucoup de la religion musulmane est une pratique pratiquée. Et comme tu dis, en fait, toi tu as parlé de prosélytisme, enfin de la façon dont le voile devient un symbole à la fois de l'oppression et du prosélytisme de l'islam en fait. Et tu as tout à fait raison de souligner ça, je pense.
Et puis le deuxième argument, je pense que c'est celui, enfin c'est l'argument pseudo-féministe de finalement le voile est un symbole d'oppression de la femme et d'une part, on doit protéger les personnes encore non voilées, encore non converties à la menace de cette oppression, les femmes françaises non musulmanes. Et puis d'un autre côté, on doit empêcher ces femmes voilées de subir une pression extérieure qui les force à se voiler et à se soumettre à une autorité religieuse, en gros. Je pense que c'est le deuxième gros argument important.
Tout à fait. Et tu voulais peut-être ajouter quelque chose ?
Oui, donc je voulais en venir sur ça. Donc finalement, comment le voile qui au départ est seulement un signe religieux, pas un signe de soumission à quoi que ce soit, sinon un signe de croyance. Oui, je suis musulmane. A été resignifié par les médias et certains personnages politiques et est devenu un symbole, le symbole de soumission qu'il est aujourd'hui et qui est combattu aujourd'hui. Donc forcément, en partant du principe que c'est effectivement une forme de soumission et de domination des hommes musulmans sur les femmes musulmanes, forcément, on ne peut pas être pour le voile. Le problème, c'est d'où ça vient et est-ce que c'est véritablement vrai ? Il y a quelque chose qu'a Tariq Ramadan, qui est un personnage politique aussi assez important, que vous pouvez retrouver sur YouTube, il a fait pas mal d'interventions, disait, c'est que d'une part, il faut pas oublier qu'il y a plusieurs islams, il n'y a pas un seul islam, et puis lui, il parle carrément d'islam occidental, c'est-à-dire un islam qui serait pas... En gros, il dit qu'on pourrait parler d'islam français qui serait pas un islam qui, en soi, serait complètement incompatible avec d'autres valeurs françaises comme la laïcité. Et d'autre part, il disait un truc, il a dit quelque chose d'assez intéressant, je vous dis exactement ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas savoir quand une conscience est contrainte, si elle l'est par un intégrisme potentiel, ou si elle l'est par un choix individuel, c'est-à-dire un acte de conscience.
Oui, on ne peut pas sonder les consciences.
Voilà, donc on ne peut pas dire finalement toutes les femmes voilées en France, toutes les femmes musulmanes voilées, sont forcées à être voilées. Et même si c'était le cas, est-ce que l'État a à intervenir dans la sphère privée dans laquelle elle serait, dans laquelle elle recevrait une certaine forme de pression ? Je pense que la réponse est non.
Ouais, la réponse est non. Et en plus, ce que tu dis me fait penser à deux choses. À la fois, finalement une même chose, une même idée, mais que, tu vois, que je détaillerai plus en deux. La première, c'est pour revenir à ce que tu disais tout juste avant, et là pour revenir sur ce que tu viens de dire. La première, c'est en faisant du voile un symbole d'oppression, on construit une frontière, tout simplement. Et donc, du coup, implicitement, on fait des personnes non musulmanes les avant-gardes de la libération, de l'émancipation des femmes. Et ça devient, non seulement on fait des personnes non musulmanes, mais de la nation. Et du coup, le féminisme devient une valeur nationale. Et c'est là qu'il y a un amalgame extrêmement dangereux, je pense. Et ensuite, lorsque tu parlais de la question de forcer ou pas forcer, on en revient toujours à la même, aux mêmes débats, aux mêmes amalgames qui visent également les putes. C'est-à-dire, est-ce qu'elles l'ont choisi ou est-ce qu'elles l'ont pas choisi ? Est-ce que quand on porte le voile, on le choisit ou on le choisit pas ? Le problème est que c'est un débat qui est flouté dès le départ et sans fin. Et puis, est-ce que on demande aux jeunes filles, enfin je sais pas pourquoi je dis jeunes, mais aux filles qui se maquillent à outrance, qui sont hyper sexualisées, est-ce qu'on leur demande si elles ont choisi ou pas choisi de se maquiller? Cette question est complètement biaisée. On sait très bien qu'il y a un ensemble de déterminismes et de facteurs culturels, du coup là aussi religieux, etc., très importants, qui nous façonnent en tant qu'individus, qui nous orientent, qui orientent notre pensée, notre façon de voir le monde, et que on peut pas réduire quelque chose qui en gros que sans lequel on se voit pas vivre à une question de choix ou de non choix, je pense que, ou de pression ou de contrainte à non contrainte.
Voilà, c'est ça. Tout. Ouais,
c'est tout. Et peut-être, je sais pas si tu avais rajouté quelque chose sur cette question entre du voile devenu stigmate et symbole d'oppression. On peut peut-être parler de ce qu'on pourrait appeler l'inversion du stigmate, à savoir qu'est-ce que font ces comment peut être resignifié le voile à partir de ce stigmate. Il peut être resignifié en lutte contre peut-être l'hypersexualisation. C'est ce dont parle notamment, j'imagine que beaucoup d'autres en parlent, je ne sais pas, Marie-Hélène Boursier dans le deuxième tome de Queer Zone, Sexe politique, et qui a été publié en 2005, et qui parle notamment de cette possibilité, de ce pouvoir performatif finalement après du voile, comment en faire un lieu d'empowerment, c'est-à-dire que face à une société pornographique maximale, enfin je veux dire on pourra pas le contester, qui hypersexualise les femmes, etc., et qui en fait des objets de désir, l'on peut voir également le port du voile comme un acte de résistance. C'est peut-être une des manières de le resignifier, en tout cas qui peut être également une façon de se penser féministe, et à chacune de trouver un sens à sa lutte. Voilà.
Non, je trouvais ça super, super intéressant. Justement, ça montre bien que le problème qui s'est passé en France, c'est que finalement, à partir d'un signe auquel on peut donner la signification que l'on veut, en l'occurrence le voile, donc que toi tu disais qui pourrait être, donc qui pour certaines personnes est émancipateur, là toi tu parlais justement que ça pouvait être un signe de révolte contre une société hypersexualisante des corps, puisque ce serait au lieu de découvrir les corps à outrance, les recouvrir, que ce soit outrance ou non, ça c'est une autre question. Finalement, ben, c'est ça le problème je pense qu'il y a eu en France, c'est que on a donné au voile un sens unique et universel, ultra généralisé, qui est celui de l'oppression, la soumission des femmes qui le portent à une religion qui, par ailleurs, serait machiste par essence. C'est
exactement,
ça aussi.
Ouais. Le problème est précisément que l'on parle du voile qui devient justement le signe de la visibilité, alors que c'est précisément là-dessus que se fonde le racisme, c'est sur les stigmates visibles de la race, et c'est comme ça que le racisme naît, c'est justement là que se révèle le racisme, je pense. Est-ce que tu penses qu'on parle directement, d'islamophobie, ou est-ce qu'on balance quand même l'extrait de Nasira, ou est-ce qu'on n'a pas le temps?
On va mettre peut-être une petite chanson, celle de Casey, Apprends à taire, et puis on revient tout de suite et on parlera d'islamophobie pour terminer cette émission qui vient déjà à sa fin. À tout de suite.
C'est impossible d'être aussi pitoyable. Ça me paraît impensable d'être autant inaudible. Tant j'ai passé au crible tous tes textes sur ma table. Et qu'on le veuille ou non, c'est incompréhensible. Ta grammaire est instable, improbable et horrible. Ta diction dépasse le stade de l'inadmissible. Arrête les messages, illisibles au portable. Reprends ton cartable, ton pleura est pénible. Le plus insupportable, c'est que tu joues l'invincible. Le braqueur introuvable, le voleur invisible. Le rappeur terrible, imbattable, incorruptible. T'es peu crédible et minable, c'est méprisable et risible. Ne sois pas susceptible, mais tu n'es pas formidable. Ta plume est faible, ta carrière est vulnérable. Tu sais bosser souvent est une chose honorable.
Vas-y, casse-toi de là,
faites commence par le Scrabble. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire, s'te plaît.
Quoi?
Chez toi, y'a pas le dictionnaire. Allez, apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Oui, j'avoue qu'à l'écoute de ton titre, j'ai chopé la courante et pété une durite. T'as beau dire que c'est un hit, mais là faut que tu arrêtes. J'étouffe, j'ai l'impression d'avoir bouffé une arête. Les minettes du R&B avec leurs amourettes. Je l'aime, il m'aime et il m'a compté fleurette dans les pâquerettes. Autant m'ouvrir les veines, me faire sauter la tête. Me cramer la plante des pieds avec des cigarettes. T'as sûrement du mérite, ou j'ignore ce que je rate. Mais tu mérites et puis cette daube a été écrite à la hâte. Ce fond de teint va à ta robe favorite. Mais en revanche, n'espère vraiment plus rien de cette voix ingrate. Ceux qui disent le contraire ne sont que des hypocrites. Tu n'es pas prête, retourne à des activités concrètes. Je ne sais pas, acrobate, avocate ou marionnette. Je veux juste que tu dégages de mes pattes pour être honnête. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Chez toi, y'a pas le dictionnaire. Allez, apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Brun, ténébreux, mal rasé, malheureux, méprisé d'après eux et proche des miséreux. Pense à la guerre, à l'effet de serre, entre midi et deux, pleure chez Michel Drucker.
Voilà, donc c'était Kaycee, donc une rappeuse française. On revient tout de suite donc avec l'islamophobie latente des mesures contre le voile et de finalement cette espèce de politique à la fois assimilationniste et que certains ont qualifié de néocolonialiste qui s'exprime d'un coup très ouvertement en France sous couvert d'un féminisme qui pour le coup est hyper ostentatoire mais qui est un peu vide de sens. Puisqu'on n'a jamais émancipé les gens à leur insu, c'est impossible. Donc, dès le départ, c'est des mesures qui sont absolument pas, qui se présentent comme des mesures politiques visant à défendre les droits des femmes, et qui sont irréalisables, qui peuvent pas atteindre leur but dès le départ, de toute façon. Et donc, Suzanne et moi voulions parler de, finalement, l'islamophobie qu'il y a derrière tout ça, tout le débat politique aussi sur la question du voile qui nous a ramené à finalement est-ce que c'est bien ou pas le voile et ce qui n'est pas censé être une question qu'on devrait se poser. Pour commencer, j'aimerais bien vous faire une petite citation d'un article qui s'appelle « L'islamophobie en question à Mediapart et ailleurs », un article de André Kuhlberg. Donc ce qu'il a écrit, c'est ce que je vais vous dire tout de suite. « Les formes de racisme changent. Un nouveau racisme a été élaboré reprochant à l'autre, l'immigré, non sa race mais sa différence culturelle ineffaçable et destructrice de l'identité française. L'élément central de cette différence culturelle depuis la révolution iranienne, c'est l'islam. Il fallait attirer l'attention sur cette nouvelle configuration créée pour former un racisme d'apparence respectable et fédérer autour de lui des peurs xénophobes, des intolérances religieuses, des nostalgies coloniales, etc. C'est la deuxième raison pour laquelle la notion d'islamophobie était nécessaire. Elle désigne le nouveau système identitaire du racisme contemporain et son vecteur privilégié, un certain discours sur l'islam. Donc voilà, en gros, il explique d'où ça vient ce mot islamophobie et pourquoi le mot racisme était plus suffisant. Parce que finalement, le racisme renvoie au concept de race. Qui ne fait plus partie de ces nouveaux mécanismes de racisme, puisque maintenant le racisme a une nouvelle spécificité il s'attaque en gros à une nouvelle identité qui n'est plus raciale mais qui serait religieuse, qui est celle de l'islam. Voilà, donc je trouvais que c'était hyper intéressant.
Ouais, c'est très intéressant. Ça, on a besoin de ce terme pour désigner la spécificité d'un nouveau racisme qui vise particulièrement les musulmans, mais qui sont d'abord des personnes racialisées.
Et qui réduit en plus les musulmans à un islam, comme si c'était... Enfin, en gros, qui...
Et qui réduit, et qui aussi qui a eu un amalgame entre arabes et musulmans.
Oui, d'une part.
Ces choses-là.
Et qui fait des musulmans seulement un espèce de vecteur ou une forme d'expression d'un islam, et non pas des individus qui aussi peuvent avoir une certaine forme de... Comment dire, de penser, qui peuvent penser aussi leur propre religion, et etc. quoi. Enfin, sans revenir sur ces questions-là, quoi.
Ouais. D'ailleurs, je rebondis sur un terme que tu as dit, et sur le terme de néocolonial, et après je reviendrai rapidement sur l'étymologie de islamophobie. Le terme de néocolonial, quand on parle des politiques qui visent les femmes portant le voile notamment, pourquoi est-ce qu'on peut parler de politique néocoloniale ? Qui est-ce qu'on a parlé ? Donc, il y a Abdelali Hajat et Mohamed Marwan. Plus récemment, je cite quelques noms comme ça, après je vous présente, là ça fait un petit peu florilège, Jean-François Brault qui a écrit un article dans le Nouvel Obs sur la voilophobie, ce qu'il a appelé la voilophobie. Par néocolonialisme, il faut revenir sur la généalogie du colonialisme et notamment sur les cérémonies de dévoilement organisées par les colons et par leurs femmes en Algérie pendant justement la colonisation. Du coup, il y a, c'est notamment Frantz Fanon qui l'évoque, qui en parle. Et donc, il y a véritablement on peut retracer une généalogie coloniale à cette haine du voile et à cette signification du voile comme stigmate, comme symbole d'oppression. Voilà, et ensuite pour revenir rapidement, après on aura terminé normalement je pense sur l'étymologie de islamophobie, parce que en fait on emploie ce terme, mais il fait quand même l'objet d'une polémique enfin nous on l'utilise, mais Caroline Fourest en fait et Pascal Bruckner en 2010 ont contesté, enfin ont attribué l'étymologie du terme islamophobie au mollah iranien. Donc, il viendrait du persan. Or, le mot n'existe pas en persan. Et c'est ce que Mohamed Merwan et Abdelali Hajat, qui ont travaillé ensemble, contestent dans un article qui a été publié dans un entretien qui a été publié et organisé par le CCIF, Collectif contre l'islamophobie en France, qui a été créé en 2003. Et donc, où il conteste cette étymologie et qu'il la retrace en disant qu'on doit ce terme directement contexte colonial par des administrateurs ethnologues spécialistes de l'islam ouest africain pour dénoncer une frange de l'administration coloniale qui affiche ouvertement son hostilité à l'encontre des musulmans et de la religion musulmane, ce qui selon lui tend à fragiliser la domination coloniale française. Donc en plus, bon, bref. Voilà, je pense qu'on a terminé.
Un dernier mot quand même. Ouais. Finalement, je trouve que finalement cette espèce de défense d'espèce de protection des droits des femmes qui a essayé de se faire via un dévoilement ou en tout cas une interdiction du port du voile, ça reproduit une autre forme de domination, puisque ça a créé en France une hiérarchie à la fois entre cultures, avec d'un côté une culture laïque qui serait supérieure, puisque la deuxième culture là, en l'occurrence, qui est pointée du doigt, c'est la culture musulmane qui est généralement associée avec un espèce d'arriérisme et d'archaïsme au niveau des droits des femmes. Et d'autre part, ça a créé une deuxième hiérarchie entre femmes émancipées non voilées et femmes voilées qui, à la fois, sont les victimes de ces politiques et non pas les bénéficiaires, ni les sujets
de leur émancipation, voilà, les objets du discours, quoi.
Et qui, symboliquement aussi, en souffrent. Voilà, ouais. C'est juste sur ça que je voulais revenir. Je ne sais pas, Suzette, si tu as un dernier petit mot.
Ça me paraît une super conclusion, parce que tu as très bien résumé, je pense, les enjeux pour notre féminisme. le féminisme dont on parle toutes les deux semaines. Je pense que voilà, c'était une bonne conclusion à ça. Donc on se retrouve dans maintenant 3 semaines, le 8 septembre si je ne me trompe pas, dimanche 8 septembre.
Oui, c'est ça exactement.
Pour donc une 14e émission, on est donc sur RCV 99 FM et on vous souhaite une bonne continuité avec l'émission suivante à 17h.
My Favorite Things. On vous laisse avec un dernier petit son pour faire la transition. Salut.
On baissait les bras, et trop de sistas sont en pleurs. Trop de gosses ont perdu le sourire, et trop de parents ont peur dehors. Trop de jeunes finissent camés ou voleurs. La vitrue, je la déteste, car elle m'a pris trop de frères et sœurs. Où est ma fratrie? Batterie, quand ça tape comme une batterie, trop pète les plans. Finissant sans ou en petit Catherine, pensez pour vous, que Dieu vous fasse tenir debout. Gardez la force et la foi, sachez que mon cœur est avec vous. Et je dis aux grands dehors, arrêtez de faire les cons devant les petits. Mais merde, dites-leur, comme être enfermé, ça peut traumatiser ta vie. Dites-leur aussi, que les vrais, c'est ceux qui savent dire non. Les vrais, c'est ceux qui sont eux-mêmes, et qui ne suivent pas les moutons. Ouais, dites aux mômes que la fumette c'est marrant quand on commence, mais moins quand on veut arrêter. Car comme toute drogue y'a dépendance. Si tu gères pas, elle peut paralyser ta vie. Wesh, la famille faut qu'on soutienne et qu'on avance loin de la bille. On s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. C'est trop, ça s'arrête. Alors je le crie dans mon mic, faut qu'on s'entraide dans nos rues. Car on est tous enfermés dans le même sac. On s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. C'est trop, ça s'arrête. Alors je le crie dans mon mic, faut qu'on s'entraide dans nos rues. Car on est tous enfermés dans le même. Si mes frères s'entretuent, mes frères sniquent entre eux. Trop d'énergie perdue, car on a tous trop de rage au ventre. Ça rentre, ça sort, aller-retour entre rue et toll. Les petits matent ça, et croient que la street est une pure école. Les dures épaules se forment en tenant chaque mur. Mais dites-leur qu'à jouer les durs, les cœurs viennent prisonner de cette armure. Roi, et dit t'inquiète à ça, comme dit Gonzo, cherche la paix. Ensuite c'est comme chercher une poussière dans un tas de sable. Les frangins viennent, prisonniers de leur propre rôle. Certains guettent le moment opportun, dit que les autres au rôle. Les mères craquent, ne comprennent plus ce que certains s'amusent à appeler notre putain de génération. Perdu, le quotidien perturbe, car il est tel un tourbillon dans lequel combien de mes frères seraient prêts à tuer pour le million, hein. On a perdu de vue notre véritable ennemi qui lui se réjouit à la vue de notre autodestruction. On s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. C'est trop, ça s'arrête. Alors je le crie dans mon mic, faut qu'on s'entraide dans nos rues. Car on est tous enfermés dans le même sac. On s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. C'est trop, ça s'arrête. Alors je le crie dans mon mic, faut qu'on s'entraide dans nos rues. Car on est tous enfermés dans le même sac. Faut qu'on s'en sort tous ensemble, alors fais passer le mot. De Marseille jusqu'à Paris.